Cause à effet, le magazine de l'environnement.
En cette année 2020, la pandémie de Covid-19 aura eu raison de nombre de spectacles, représentations, événements culturels, festivals, à l'image notamment de celui de Cannes. C'est pourquoi France Culture a choisi de se mettre au diapason du cinéma toute cette semaine sur notre antenne, un univers artistique qui n'est pas le dernier à jouer un rôle d'éveilleur de conscience ou à donner un coup de projecteur sur les questions environnementales. Palme d'or à l'environnement, le cinéma sera-t-il un acteur principal de la lutte pour sauver la Terre et ses habitants? Réponse, regard et analyse de nos deux invités, l'acteur et réalisateur Jean-Marc Barre, dont nous sommes nombreux à garder en mémoire son interprétation de Jacques Mayol dans Le Grand Bleu de Luc Besson, et plus récemment son rôle joué dans le film La Particule Humaine. Il est avec nous en direct depuis les États-Unis et avec nous également, mais depuis la France, Cyril Dion, auteur, acteur et réalisateur notamment du documentaire Demain, un film qui a touché un large public. Et Cyril Dion est aussi auteur, entre autres, du petit manuel de résistance contemporaine, livre paru chez Actes Sud. Émission Environnement et cinéma, aujourd'hui, vous l'aurez compris, en partenariat avec le service Planète Science du journal Le Monde, dont vous découvrirez tout à l'heure l'histoire de la semaine choisie par la journaliste Perrine Moutarde. Et je remercie en direct vivement les équipes à mes côtés qui font un travail formidable. Je pense à Anaï Morales, bien sûr, une pensée aussi pour Alexandra Malka et Pierre G. Nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, le service de la documentation d'actualité de Radio France, bien sûr. Et derrière la vitre du studio, Peyrée Legras à la réalisation et la technique. Aujourd'hui, Jacques Hézubert. Bonjour à tous et bienvenue.
Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties.
C'était le 12 mars dernier. Emmanuel Macron s'adressait aux Français, leur annonçant que nous étions en guerre. Et pour reprendre ces mots, qu'il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Cyril Dion, je me tourne vers vous. Tout d'abord, comment avez-vous reçu ces mots de la bouche du président de la République ?
C'était de circonstance, en tout cas. On a toujours un peu l'impression avec Emmanuel Macron que il est capable de dire tout et son contraire, donc venant d'un président qui est plutôt libéral, j'ai trouvé que c'était encourageant. Après, il faut que ça soit suivi des faits.
Mais des propos qui laissaient percevoir quand même notre dépendance au marché extérieur déjà, ce 12 mars dernier.
Oui, ça fait bien longtemps qu'on est nombreux à dire que ce modèle de société qui cherche à optimiser la croissance, à avoir toujours plus de croissance matérielle dans un monde qui a des limites finies et est intenable. Il est intenable à la fois sur le plan climatique, à la fois sur le plan de la destruction des écosystèmes. On voit aussi qu'il est très fragile parce que dès que cette croissance s'arrête pendant quelques temps, et c'est ce qui s'est passé là, tout de suite on voit aux États-Unis on a eu 33 millions de chômeurs en 7 semaines. Donc ça veut dire qu'on peut pas arrêter la machine. Et ça, c'est une extraordinaire fragilité. Donc, réfléchir à un modèle économique qui arrête de considérer l'ensemble des ressources naturelles comme des ressources qu'on peut simplement piller, et aussi réfléchir à un modèle qui ne demande pas une croissance effrénée et infinie, je pense que c'est une des priorités énormes qu'on a besoin d'explorer aujourd'hui.
Des alertes avaient déjà été lancées, des messages diffusés, notamment par le biais du cinéma et d'artistes engagés. Est-ce que, Cyril Dion, vous éprouvez un sentiment de gâchis ou vous pensez qu'il fallait quand même cette crise sanitaire pour éveiller les consciences politiques et potentiellement économiques ?
Malheureusement, moi je crois de plus en plus, peut-être que c'est l'âge qui vient, mais qu'on ne réagira pas tant qu'on ne sera pas confronté au phénomène de façon concrète dans nos chairs. Là, on sait depuis au moins une quinzaine d'années qu'une épidémie comme celle-là pourrait survenir. Je me suis amusé à, regarder les alertes qui avaient été lancées par tout un tas de scientifiques, les crédits qui ont été supprimés à certains chercheurs qui travaillaient sur la question. J'ai entendu un certain nombre de biologistes dire qu'il y a déjà 10 ans, en 2009, l'alerte avait été lancée. Emmanuel Macron a reçu un rapport en mai 2019 en disant qu'il y avait un risque d'épidémie important. Et pourtant, voilà, tant qu'on n'a pas été au pied du mur, la réponse n'a pas du tout été à la hauteur et nos sociétés ne se sont pas préparées correctement. Et face à l'enjeu climatique ou à la disparition de masse des espèces, on est à peu près dans la même configuration. On a des alertes depuis les années 70. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est quand même très très impressionnant quand Alexandria Ocasio-Cortez, qui est la nouvelle star montante du Parti démocrate, a auditionné au Congrès les scientifiques d'Exxon. Elle a mis à nouveau en lumière le fait que en 1982, ils avaient prévu qu'en 2019, nous aurions dépassé les 1 degré de réchauffement à l'échelle de la planète et qu'on serait à 415 parties par million. C'est la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et en 2019, on était exactement à ces chiffres. Et elle lui disait, mais dites donc, vous étiez fort. Et elle disait, oui, nous étions des excellents scientifiques. Et Exxon, voyant quel impact le changement climatique aurait et comprenant que ça mettait en péril leur modèle économique, a décidé de financer des études contradictoires et de faire ce que Naomi Oresk explique dans son livre qui s'appelle Les marchands de doute, de troubler l'opinion en laissant supposer que non, c'était pas si grave, que on n'était pas obligé d'avoir une réponse si importante. Et ça fait 50 ans maintenant, en 2020, ça fait 50 ans que ça dure. Donc on se dit, peut-être qu'il va falloir qu'on arrive au moment où les canicules, les phénomènes climatiques, les stress hydriques seront tellement graves qu'on ne pourra pas faire autrement que réagir, on pourra plus les ignorer. Le problème avec la question climatique, c'est que à ce moment-là, il sera peut-être trop tard. C'est-à-dire qu'on aura peut-être dépassé des seuils qui seront irréversibles et on aura peut-être enclenché des phénomènes qu'on ne sera pas capable de maîtriser.
Jean-Marc Barre, je me tourne vers vous. Cyril Dion mentionnait cette femme politique, effectivement, aux États-Unis. Et d'ailleurs, on peut voir cette séance, cette audition sur Internet. Vous, cette crise sanitaire, alors vous l'avez vécue en France, mais vous avez dû repartir aux États-Unis la semaine dernière, donc précipitamment. Cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé en vous et qu'est-ce qui vous a le plus saisi ?
Cyril... très 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 bien dit toutes les raisons pour laquelle on se retrouve là. Moi, je suis depuis quelque temps en désillusion à nos institutions. Je regarde surtout ce qui se passe aux États-Unis et Trump et comment on va dans la direction complètement opposée. Et oui, je suis dans une délusion, une désillusion qui est peut-être mieux que l'ignorance et l'arrogance que les Américains acceptent. Mais je pense que on n'a plus qu'à aller dans la rue et demander un changement de valeur. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit.
Un changement de société, c'est ce que vous dites.
C'est-à-dire que dès qu'on n'a pas la chance de, aux États-Unis, par exemple, c'est les multinationales qui dominent nos gouvernements. Donc, c'est impossible à travers la procédure électorale de changer des choses ici aux États-Unis. Et puis, l'Europe est un peu dans la même chose. Parce qu'on peut rien faire vraiment en France, parce que c'est l'Europe et la Banque centrale qui, quand même, décide tout.
Donc, ce que vous dites, Jean-Marc Barre, c'est le pouvoir des citoyens ou peut-être même aussi le pouvoir du monde du cinéma pourrait jouer un rôle. Au vu de vos expériences passées, par quels moyens est-ce que justement ce monde du cinéma doit-il aider à tirer les leçons? De quelle manière on pense au film dans lequel vous étiez l'acteur principal l'an dernier, La particule humaine, ce film du réalisateur turc Semih Kaplanoglu. Ce film-là est sorti sur grand écran, c'était un film de fiction. On n'a pas eu le sentiment qu'il touche un public. Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison à cela? Est-ce que finalement les films documentaires ont plus de réception auprès du public que les films de fiction?
Je pense qu'on peut pas juger aujourd'hui. On est dans des marchés. Notre cinéma, il est dominé, il est occupé par des marchés pour les moins de 25 ans ou les plus de 60 ans, et il a plus de responsabilité culturelle à divertir le public avec des choses sérieuses. Quand il est sorti, La Particule Humaine, il était dans 10 salles. Donc il peut pas être jugé sur cette chose-là. Comment dire?
Et c'était un film incroyablement, il faut le préciser pour les auditeurs, Jean-Marc Barre, un film incroyablement prémonitoire. Vous jouiez le rôle d'un généticien, Errol Erin, spécialiste des semences, pris dans un monde à l'agonie qui subissait les changements climatiques, les atteintes à la biodiversité, aux vivants, les dérives des manipulations génétiques. Et en plus, on voyait qu'il y avait une partie de la population confinée dans une méga-ville, entourée elle-même de terres mortes. C'était extraordinaire.
On avait prévu ça pour le futur proche, mais on est dans cette crise maintenant, on est dans cette mur, et on est, je sais pas, moi comme j'ai dit, je sais que il faut qu'on, Cyril l'a très très bien dit, il faut qu'on change de valeur, il faut qu'on réarrange la société pour être un peu plus dépendant sur nous-mêmes en termes de la crise climatique. Là, j'ai pris l'avion hier. Il faut qu'on change nos manières de vivre. Et je pense que cette chose est tellement radicale qu'on est étourdi par le dilemme. Et dans notre culture aujourd'hui, on peut pas faire financer des films qui vont vers la vérité parce que. Qu'est-ce qui se passe? Et les gens, ils ont tellement peur que de savoir la vérité. Moi, la seule chose que j'ai fait dans ma participation de ça, c'était de Extinction Rebellion pendant l'occupation des deux Italies. C'est très difficile de faire ça. C'est une vraie demande physique et morale. Mais je pense que c'est là, j'ai senti qu'au moins je faisais quelque chose.
Cyril Dion, Jean-Marc Barre parle de différents points effectivement dans cette façon d'agir aussi, hein, c'est ce qu'il ressent de son côté. Il nous parle de Extinction Rebellion qui prône la voie de la désobéissance civile, une voie potentiellement à emprunter pour des citoyens pour pouvoir agir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que la résistance a besoin de se faire à plein de niveaux différents. Vous parliez à l'instant du cinéma et de ce que le cinéma peut apporter à cette transformation de la société. Moi, je pense que le fond du problème, c'est que nous vivons, nous, les êtres humains, dans des récits. C'est ce que dit très bien Harari dans Sapiens, où il y avait ce livre formidable de Nancy Houston qui s'appelle L'espèce fabulatrice, qui dit que finalement, nous, les êtres humains, on passe notre temps à interpréter la réalité de façon partielle. On voit que Jean-Marc parlait de Trump, qui est quand même un spécialiste pour interpréter la réalité à sa guise et raconter des histoires à partir de ça. Et d'une certaine manière, on est tout le temps plongé dans cette subjectivité contre subjectivité, vision du monde contre vision du monde. Et tout au long de l'histoire humaine, ces récits se sont transformés en structures politiques, économiques, en religions. Et ce que dit Harari, qui m'a moi, beaucoup frappé, c'est finalement plus on est nombreux à adhérer au même récit, plus on est nombreux à suivre les mêmes règles, les mêmes lois, les mêmes normes. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Quand je parlais tout à l'heure de la croissance économique, finalement c'est un récit, c'est une convention. C'est une convention qui a été mise en œuvre avec un modèle économique qui en découle, mais qui n'est absolument pas immuable. Enfin, je veux dire, c'est pas les lois de la nature. La croissance économique, c'est pas la photosynthèse. Il y a personne qui a décrété que c'était obligatoire d'avoir de la croissance économique, une croissance économique infinie dans un monde fini. Donc, pour moi, un des endroits du combat, c'est d'essayer d'élaborer d'autres récits. Là, on vit dans un récit qui est un récit matérialiste, consumériste, qui a été porté beaucoup par la culture, qui a été porté par des romans, qui a été porté par le cinéma, qui a été porté par la publicité. Je parle souvent de ce chiffre-là, mais quand les Américains sont venus négocier avec les Européens les milliards qu'ils allaient investir dans le plan Marshall au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont obtenu d'avoir 60% des droits de diffusion dans les cinémas européens pour leurs films. Et le Eric Johnson, qui avait été mandaté par les Américains pour cette négociation, est ensuite revenu devant le Congrès américain pour justifier justement de cet investissement très important des États-Unis et de cette contrepartie dans les cinémas, en disant que le cinéma était une arme contre le communisme. Donc un moyen vraiment de gagner une bataille culturelle et de gagner la bataille des idées, la bataille de l'imaginaire. Et effectivement, le capitalisme financiarisé, cette religion un peu de la croissance, a gagné la bataille des récits, a gagné contre les récits religieux, parce que même si on a des petites résurgences de terrorisme à tendance religieuse, c'est quand même très faible. Si on regarde la grande majorité des êtres humains sur cette planète, tout le monde aspire à vivre un peu de cette façon-là, aspire à gagner de l'argent, à avoir de plus en plus de possessions matérielles, de plus en plus de confort. Donc, la difficulté, c'est que quand vous arrivez à l'intérieur de ce récit qui est très puissant, qui est très installé, qui nous matraque toute la journée avec justement avec ses séries, avec ses films, avec ses pubs, et que vous essayez d'avoir une petite voix un peu discordante en disant ah bah oui mais il faudrait peut-être arrêter un peu de prendre l'avion, ah bah il faudrait manger moins de viande, ah bah il faudrait déconsommer, on est balayé. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce que Jean-Marc disait par rapport à ce film qui est sorti dans 10 salles. À contrario, si on regarde le dernier Avengers et qu'on s'amuse à compter le nombre de salles, il a dû sortir dans 700 salles, rien qu'en France. Et je parle pas du monde.
Donc, Cyril Dion, ce que vous dites, c'est finalement, la fiction a un rôle à jouer. Le cinéma a un rôle à jouer. Il peut être une arme, comme il l'a été en son temps avec le plan Marshall, mais il pourrait être aujourd'hui une arme pour l'environnement, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Comment est-ce que vous analysez le fait que ce sont plutôt les documentaires qui sont portés et utilisés dans cette arme-là, l'arme du cinéma, mais pas forcément les fictions?
Je pense que pour le moment, les réalisateurs n'ont pas beaucoup, les réalisateurs, les producteurs, les créateurs n'ont pas beaucoup investi le terrain de la fiction pour essayer de proposer d'autres imaginaires. Il y a plein de fictions qui sont super et qui ont pour vraiment but d'alerter, mais qui sont souvent des fictions vraiment très dystopiques. On envisage l'avenir toujours comme une espèce de champ de ruines où tout est détruit, où on doit aller sur d'autres planètes avec des films formidables. Moi, par exemple, j'adore Interstellar de Christopher Nolan. Je trouve que c'est un film magistral. Mais voilà, c'est encore l'idée que tout sur Terre va disparaître et qu'il va falloir aller dans l'espace pour trouver une autre planète sur laquelle on pourrait habiter. Moi, je pense que c'est le sens de l'appel que j'avais écrit et qu'on avait lancé au Festival de Cannes l'an dernier. Je pense qu'on a besoin d'essayer d'imaginer l'avenir différemment. Et qui mieux que les scénaristes, que les réalisateurs, les producteurs, les romanciers, peut nous aider à ça et peut nous proposer justement une vision de l'avenir plus sobre. Justement, on est plus concentré sur l'être et moins sur l'avoir et sur la consommation. Si on n'est pas capable d'imaginer à quoi le futur pourrait ressembler, c'est très difficile d'emmener les gens avec nous pour le construire. C'est une espèce de... On leur demande une sorte de saut dans le vide vers l'inconnu. Et il y en a quand même qui ont réussi. Enfin, si on regarde dans les grandes fictions qui ont un message écologique, on peut parler d'Avatar, qui était quand même cette tentative de James Cameron de revisiter le mythe des cowboys et des indiens et de repenser notre relation à la nature. Alors évidemment, faut toujours que ça se passe sur une autre planète, mais il y avait un message écologique extrêmement fort. Et c'est 14 millions d'entrées en France, je crois, 3 milliards de bénéfices dans le monde. Donc, c'est possible. On peut faire des fictions qui ont de l'impact, qui sont aussi grand public et qui proposent un imaginaire différent. Moi, je pense qu'il faut simplement décider de le faire. Et c'est, d'une certaine manière, être un peu moins paresseux, parce que la dystopie, c'est tirer le fil de ce qui existe déjà, et puis on pousse les curseurs et tout s'aggrave. Et bon, ça demande pas une imagination considérable. Alors que, imaginer vraiment un monde différent, un monde où on participerait à résoudre les problèmes qui sont devant nous, ben là, effectivement, il faut qu'on se creuse un peu plus la tête.
Et de votre côté, quel a été le film peut-être qui a été une véritable révélation en matière d'environnement pour vous ?
Le premier film qui a été une révélation en termes d'environnement, c'était La Belle Verte de Colin Serrault.
Ah oui.
J'avais, c'était sorti en 95, donc je devais avoir 17 ans. Et c'est marrant parce que ce film a eu beaucoup moins de succès que ses autres films à l'époque, puisque je crois que ça a dû faire, enfin, aujourd'hui on considérait que c'est bien, mais à l'époque ça avait fait que 700 ou 800 000 entrées, alors qu'elle avait fait 11 millions avec Trois hommes et un couffin, donc on avait dit que c'était un four. Mais en l'occurrence, ce film est devenu culte pour tout un tas de gens parce que, d'une certaine manière, elle a poussé là aussi tous les curseurs en essayant de construire une fable écolo et de montrer justement un peuple toujours sur une autre planète.
Dans l'étrangeté, hein. Oui.
Oui, oui, qui vit vraiment différent et qui a un regard complètement décalé sur notre monde. Si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous encourage vraiment à regarder. Et vous pouvez le regarder avec vos enfants parce que c'est très drôle et c'est vraiment un conte. Et quand j'ai vu ça à 17 ans, oui, moi, ça m'a énormément frappé. Je me suis dit, mais ouais, effectivement, elle a raison, on marche vraiment sur la tête.
Jean-Marc Barre, de votre côté, alors on pense forcément au Grand Bleu de Luc Besson, sorti en 1988, hein, qui a été porté sur grand écran de belle manière et qui a été un formidable aussi film pour prôner la symbiose nécessaire de l'homme avec la nature, hein, l'océan en l'occurrence. On vous rappelle toujours le Grand Bleu, mais en 1988, le but de Luc Besson n'était pas à ce moment-là forcément de prendre une part dans le combat pour l'environnement.
Non, c'était surtout de communiquer sur cette chose de l'apnée et Jacques Mayol. La mer était un monde un peu prohibé encore à cette époque-là, et puis avec un film comme ça, il a montré à travers Enzo et Jacques que l'être humain il fait partie de la mer et qu'il y a une responsabilité et puis un rapport spirituel qui existe avec la nature. À cette époque-là, c'était mignon comme idée, c'était surtout l'amitié et l'apnée qui s'est vendue et puis un truc fablesque. Mais aujourd'hui, on est face à cette réalité que on est vraiment en deuil avec tout ce que l'être humain a fait à la nature. Et comment aujourd'hui rétablir cette lien spirituel avec la nature? C'était un peu le message de la particule humaine, de Semi Kaplanoglu. C'est qu'il y a aussi des réponses à comment l'être humain, dans son rapport avec la Terre, le conserver, l'aimer. Et pour moi, je pense que ici, aux États-Unis, j'ai connu le rêve dans les années 60 avec les voitures sur une autoroute où il y avait de la place. Mais aujourd'hui, c'est devenu un cauchemar tellement évident qu'il faut qu'on se retrouve peut-être spirituellement avec la Terre et aussi de recréer des communautés. Moi, mon grand problème aujourd'hui, c'est que j'y crois plus à l'État. Je vois que c'est des technocrates, les choses sont difficiles à changer, et j'ai une grande envie de réessayer de trouver une communauté, mais je sais que le temps des tribus, c'est fini.
Mais vous prenez votre part dans des associations comme l'association Cétacé, c'est une association pour la protection des mammifères marins et de leur habitat naturel. Vous sentez que c'est plutôt par le biais des citoyens, des ONG, des associations que le changement viendra?
D'abord, il faut que ce soit moi. Je donne pas beaucoup de temps encore à essayer de changer. Moi, je suis dans une mode survie de retrouver mon travail, de retrouver une manière de faire des films. Mais je sais qu'il y aura un moment où ça deviendra futile, ça. Je suis en ce moment assez désillusionné et voilà. Je sais pas comment le dire.
Et de votre côté, justement, Jean-Marc Barre, le Grand Bleu a été un révélateur parce que vous avez, avec l'apnée, avec cette pratique, cette spiritualité que vous avez commencé à sentir aussi de vous et les fonds marins, est-ce que ça a été ce film révélation ou alors il y en a un autre ou d'autres qui vraiment vous ont amené à réfléchir autrement sur la planète ?
Je Je peux pas le dire. Vraiment, moi, c'est à travers des lectures de journalistes et de scientistes, et c'est vraiment à travers la lecture. Moi, j'étais très touché, par exemple, par le film de Andrei Tarkovsky qui s'appelle Stalker, où tout d'un coup, on est dans le film est en noir et blanc, et tout d'un coup, on va dans la nature d'une ville grise et horrible. Dans une nature et le film va en couleur et les trois personnages sont dans une genre de quête personnelle aussi, mais c'était quelque chose de plutôt spirituel et pas du tout intellectuel.
Cyril Dion, Jean-Marc Barre parle de cette désillusion et en même temps il essaye de son côté, que ce soit en France, aux États-Unis, je sais qu'il vit aussi en partie en Italie, mais il essaye de prendre sa part, hein, comme on dit, un peu à l'image des colibris, de remplir son rôle. Vous, c'est ce que vous avez essayé de montrer, hein, ces initiatives dans le film Demain. Je rappelle que il y a eu 1 200 000 spectateurs donc en salle et qu'il est diffusé, il a été diffusé dans 27 pays, hein, si je ne m'abuse. Vous avez voulu montrer ces initiatives, ces récits, ces solutions expérimentées sur le terrain, mais vous sentez que ce n'est pas suffisant pour changer les choses, et vous nous dites très clairement dans votre livre, il faut des personnes capables de produire des récits puissants, à même d'entraîner des millions d'autres citoyens, et vous n'hésitez pas à donner en référence des personnages comme Martin Luther King ou comme je pense à d'autres grandes figures que vous citer Gandhi, par exemple, comme modèle.
Quand on s'intéresse un peu au moment où des grands changements sociétaux sont intervenus, le moment, par exemple, de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, le moment où le mouvement féministe a eu ses premières victoires, notamment le droit de vote pour les femmes en Angleterre, on voit que c'est une conjonction de choses. C'est-à-dire que c'est à la fois des nouveaux récits, donc une nouvelle conception du monde. À un moment, on passe d'un récit, par exemple, qui est de se dire les femmes sont inférieures à l'homme, d'ailleurs elles n'ont pas d'âme, donc elles n'ont pas le droit de voter, donc elles sont reléguées à des tâches subalternes, elles n'ont pas accès à la même éducation, donc à la même possibilité de créer des œuvres d'art. Donc il y a un moment où la collectivité de la société, même si c'est asymétrique, puisque c'est pas vrai dans tous les peuples, mais en tout cas globalement, on se raconte cette histoire-là. Et puis à un moment, des voix discordantes se font entendre. On a des Virginia Woolf, on a des grandes féministes qui disent tous les fondements de cette histoire sont faux. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a la lutte. Si on prend par exemple le droit de vote des femmes en Angleterre, il a fallu les suffragettes qui ont à la fois lutté de façon violente et non violente, puisqu'on oublie aussi parfois qu'elle faisait des attentats, enfin que il y avait une véritable confrontation qui avait lieu, et puis parfois des circonstances historiques. Et là, en l'occurrence, la Première Guerre mondiale, qui, en envoyant tous les hommes au front, a finalement donné les rênes de la société à énormément de femmes qui ont tenu la barque. Et donc, au sortir de la guerre, le gouvernement à la fois a été obligé de reconnaître, et toute la société avec lui, que les femmes avaient une place fondamentale, mais aussi que, d'un point de vue électoral, d'un point de vue moral, c'était plus possible de considérer que c'était des citoyennes de seconde zone. Donc, paf, on a un changement. Ben là, d'une certaine manière, c'est la même chose. On a besoin que ces imaginaires soient projetés très fort. Le I have a dream de Martin Luther King, c'est ça. C'est finalement, c'est ou le Imagine de John Lennon, c'est projeter une autre histoire, un autre récit, un autre imaginaire. On a besoin que des gens se battent, résistent, et pour ça, on a aussi besoin qu'ils s'organisent. Et pour l'instant, malheureusement, les mouvements alternatifs, que ce soit Extinction Rebellion, mais c'était Occupy Wall Street ou c'était Nuit debout, sont pleins d'énergie, pleins de bonne volonté, mais extrêmement mal organisés et extrêmement mal structurés pour avoir vraiment de l'influence sur la société. Quelques lobbyistes à Bruxelles ou quelques lobbyistes à Washington, avec beaucoup d'argent derrière eux, sont capables d'avoir beaucoup plus de résultats pour influencer les politiques publiques que des millions de personnes qui voudraient que ça change, mais qui ne sont pas organisées. Et puis, on va avoir besoin de circonstances historiques, et les circonstances historiques arrivent. Là, c'est ce qui se passe avec la crise du coronavirus. C'est ce qui va sans doute se passer avec les crises liées au changement climatique ou à l'effondrement de la biodiversité. Tout ça devrait, en fait, être une lutte d'influence entre les personnes qui veulent construire une société plus juste, plus durable, plus soutenable, et des personnes qui vont essayer de profiter de la situation pour plutôt imposer des politiques plus libérales ou plus autoritaires, ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc dans son livre éponyme et qui est malheureusement à l'œuvre un peu tout le temps.
Et même si, Cyril Dion, vous dites que dans cette après-crise, il y aura probablement une prise de conscience et que des choses peuvent changer, vous dites aussi que c'est quand même difficile de faire accepter l'idée de renoncer à un peu de notre confort. Donc il vaut mieux proposer des récits, réinventer nos modèles, mais les rendre désirables aussi, rendre désirable le changement proposé. Ça veut dire prôner plutôt dans les récits, les films, les documentaires, l'émotion plutôt que les leçons, l'espoir plutôt que que l'effondrement, l'empathie et la coopération comme catalyseur de ces récits communs ?
Je pense qu'on a besoin d'avoir un petit peu tout à la fois. Mais effectivement, si on fait des films où il y a simplement l'effondrement, où il y a simplement la catastrophe, c'est tellement anxiogène et c'est tellement écrasant que c'est très difficile ensuite de mobiliser des ressources pour essayer de faire quelque chose. On a l'impression qu'on est tout petit et que ce qu'on va faire est sans commune mesure avec l'ampleur du problème, donc finalement ça sert à rien. Donc pour moi, on a besoin d'articuler le constat avec des propositions, avec d'autres possibles. Quand on a fait demain avec Mélanie Laurent, l'idée était ça, était de dire allons voir des gens qui ont réinventé leur façon de faire de l'agriculture. Allons voir des gens qui racontent une autre histoire de comment on peut créer la monnaie. D'autres gens qui racontent une autre histoire de comment nos démocraties pourraient fonctionner, en essayant de choisir évidemment des exemples qui fonctionnent, qui sont inspirants, parce que on a besoin de s'identifier à ces personnages-là et de se dire peut-être que ce sont eux les héros, c'est ces personnes qui renoncent à des carrières qui dans le monde d'avant, si on veut reprendre cette terminologie, étaient bien vues parce qu'ils gagnaient plein d'argent, s'ils avaient une grosse bagnole. De se dire non, finalement, ça c'est plus le rêve, c'est pas à ça que je veux parvenir. Ce à quoi je veux parvenir, c'est peut-être donner beaucoup de sens à ma vie, faire quelque chose qui me passionne, qui me rend heureux et qui est utile aux autres. Et donc c'est vrai que quand on a été voir les agriculteurs urbains à Détroit avec des gens qui nous disaient moi j'étais banquier, enfin je travaillais au guichet d'une banque, je voyais des gens toute la journée comme des numéros, et aujourd'hui je travaille à nourrir ma communauté parce que il y a eu une forme d'effondrement, et quand je rentre chez moi et que je regarde ma fille et que je lui raconte ma journée, c'est totalement différent. C'est quelque chose qui me nourrit, qui donne un sens à ma vie, encore une fois. Et je pense que la seule chose qui est plus forte que la pression de confort, le consumérisme, c'est sans doute ça. C'est ce que disait Jean-Marc quand il disait de retrouver une forme de spiritualité. La spiritualité, c'est de retrouver du sens.
Donner du sens à sa vie, fédérer, ça passe aussi par le monde de la chanson. Là aussi, des artistes sont engagés, comme pour le chant des Colibris, Cyril Dion. Et nous vous avons demandé à l'un et à l'autre donc un choix musical. Je précise que vos propositions sont accessibles sur le site de l'émission, franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et aujourd'hui, c'est le choix de Jean-Marc Barre. Je me tourne vers vous, Jean-Marc. Vous avez choisi de nous faire écouter Sam Stone de John Prine. Il y a une raison à cela ?
Alors, ça fait depuis les 80 que je suis en Europe. Je connais très bien la culture américaine, le country, Bob Dylan, etc. Et j'ai découvert cet artiste qui était quelqu'un qui écrivait pour Dylan, qui écrivait pour plein de country music singers. Il s'appelle John Prine. C'était un des premiers victimes de Covid. Et c'est un monstre de poète américain. Vraiment, je suis déçu de moi-même que je le connaissais pas avant.
Comme vous dites, une victime du coronavirus, il est mort le 7 avril dernier. On l'écoute.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Sam Stone came home to his wife and family. After serving in the conflict. conflict overseas. And the time that he served had shattered all his nerves and left a little shrapnel in his knee. But the morphine eased the pain, and the grass grew around his brain and gave him all the confidence he lacked. With a purple heart and a monkey on his back, there's a hole in Daddy's arm where all the money goes. Jesus Christ died for nothing, I suppose. Little pitchers have big ears, don't stop to count the years. Sweet songs never last too long on broken radios.
Et c'est la suite de notre magazine de l'environnement, de cause à effet sur France Culture, en direct depuis la Maison de la Radio, magazine consacré aujourd'hui au rôle du cinéma en matière d'environnement. Et nous sommes en compagnie de l'acteur et réalisateur Jean-Marc Barre et de l'écrivain et réalisateur Cyril Dion. Et nous sommes en train d'écouter le choix musical justement de Jean-Marc Barre, Sam Stone, de John Prine. Mais pour l'heure, il est temps de découvrir le sujet de la semaine choisi par l'un des journalistes des pages Planète du journal Le Monde. Bonjour Perrine Moutarde.
Bonjour.
Vous êtes journaliste de la rédaction Planète au Monde et on vous doit notamment un article intitulé « La résilience des énergies renouvelables à l'épreuve du coronavirus ». Article à retrouver sur lemonde.fr ou sur notre site franceculture.fr. Dans le climat économique actuel, alors que le monde des énergies est ébranlé par la pandémie, un secteur semble tirer son épingle du jeu, vous nous le montrez, c'est celui des énergies renouvelables.
Oui, c'est ce qui ressort des premiers rapports après quelques mois de crise. Avec la mise à l'arrêt des économies et notamment des transports, le secteur énergétique a été fortement impacté. On a vu par exemple le prix du baril de pétrole s'effondrer, la demande mondiale de charbon diminuer. Et pour 2020, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la consommation d'énergie baisse de 6% à l'échelle de la planète. C'est considérable, mais c'est vrai qu'au milieu de ce tableau, les énergies renouvelables résistent. La production d'électricité renouvelable a continué à augmenter depuis le début de l'année et elle pourrait croître, là encore selon les prévisions, de près de 5% en 2020, encore une fois, alors que ce n'est pas le cas pour tous les combustibles fossiles. D'ailleurs, ces derniers mois, il y a même eu dans plusieurs régions du monde des records de parts d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Ça a été le cas, par exemple, en Allemagne, en Italie, dans l'Est des États-Unis. En France aussi, il y a eu des parts très significatives, sans que cela n'ait d'impact sur le fonctionnement des réseaux électriques.
Mais alors Perrine, vous avez parlé de la chute du prix du pétrole. Est-ce qu'avec ces prix bas, et plus largement avec la récession économique, on ne risque pas de voir les investissements dans les énergies renouvelables diminuer ?
Si, évidemment, c'est une des craintes. Alors il est encore difficile de savoir quel sera l'impact exact du faible prix des énergies fossiles et quand ce prix va remonter. Mais c'est sûr que ça peut pousser des États à continuer à privilégier ces sources d'énergie. Et puis il y a d'autres facteurs à surveiller. Avec la crise économique, les investisseurs auront dans certains pays sans doute plus de difficultés à emprunter, à avoir accès à des crédits pour lancer des grands projets de parcs éoliens ou centrales solaires. Il faudra voir aussi à quel rythme l'économie va reprendre. Mais surtout, c'est l'attitude des gouvernements qui va être déterminante. Est-ce que dans ce contexte de récession, ils vont mettre les énergies renouvelables au cœur des plans de relance et faire le choix d'investir massivement pour faire décoller ce secteur? L'enjeu, c'est évidemment de réussir à limiter le réchauffement de la planète. Or, on sait qu'avant même la pandémie, le rythme de croissance des énergies renouvelables était beaucoup trop lent pour pouvoir atteindre notamment les objectifs des accords de Paris pour le climat. On sait qu'il faudrait une véritable accélération et des investissements importants. Et donc, même si les renouvelables sont en train de faire la preuve de leur résilience, la question, c'est bien de savoir si les États vont faire le choix de miser sur le solaire, sur l'éolien, entre autres, ou si ces questions vont être au contraire reléguées au second plan, ou en tout cas ne vont pas être considérées comme une priorité.
Merci Perrine. Vous restez avec nous, je me tourne vers nos invités. Une réaction peut-être, Cyril Dion ?
C'est la même chose pour les énergies renouvelables que pour le reste de la société. Le Là, moi, je suis en train de tourner un film qui s'appelle Animal, où on est en train de regarder comment ça se passe hein, avec notre relation aux autres espèces vivantes. Et donc, on a fait toute une partie au Parlement européen pour comprendre comment des lois qui protègent le vivant pouvaient être prises. Et il nous disait clairement, ce qui provoque le changement, c'est là où va l'argent. Donc, si les subventions demain s'arrêtent, par exemple, pour les grands bateaux de pêche qui vont faire de la pêche en eau profonde ou qui vont ratisser les mers, mécaniquement, en fait, cette pêche ne sera plus rentable et les poissons pourront survivre. Si on arrête de subventionner de l'agriculture qui détruit tout sur son passage et qu'on subventionne plutôt de l'agriculture, de la permaculture, de l'agroécologie, pareil, et les énergies renouvelables ou l'isolation des maisons ou les infrastructures pour avoir des vélos plutôt que des voitures, tout ça procède de la même logique.
Donc conditionner les aides dans cette sortie de crise.
Surtout réorienter en fait massivement les investissements, c'est-à-dire se dire que cette crise-là est en train de nous montrer qu'on investit sans doute beaucoup dans l'efficacité, dans l'efficience, ce qui nous permet de générer des profits rapidement, un peu comme des sucres rapides dans le sang, mais très peu dans la résilience. Et la résilience, c'est justement la capacité de surmonter les chocs que nous allons traverser. Et là, si les énergies renouvelables sont particulièrement résilientes dans ce moment précis, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que la plupart du temps, on réfléchit à ce que ces énergies renouvelables produisent de l'énergie localement et que ça permet de décentraliser un peu la production, de faire en sorte qu'on soit moins dépendant de quelques grands pays exportateurs de charbon, de pétrole, de gaz, mais qu'on arrive à une forme d'autonomie plus importante.
Alors, est-ce que vous avez pu voir le net, en tout cas le dernier film produit par Michael Moore, La planète des hommes, qui fait parler de lui, hein, ce film, parce qu'il dénonce les méfaits des énergies renouvelables, un pavé dans la mare quand même.
Oui, un pavé dans la mare. Après, il y a plusieurs problèmes avec ce film. Le premier problème, c'est qu'il utilise des données qui sont extrêmement datées. C'est-à-dire qu'il a pris le pire des schémas. Il va voir un parc solaire, je veux dire, qui a été construit il y a plus de 10 ans, qui a un très faible rendement, avec des panneaux qui ont été faits en Chine. Il n'a pas été voir la dernière installation solaire avec des panneaux allemands, qui a un très bon rendement. Donc il y a plein de chiffres, et ça a été particulièrement dénoncé, notamment par Josh Fox qui a fait ce film Gasland, qui était nominé aux Oscars, et par Michael Mann, qui est ce climatologue, pour dire il y a tellement d'erreurs factuelles et il y a tellement peu d'exemples récents dans ce qui montre que le propos est déjà relativement contestable. Ensuite, le fond de ce qu'il dit reste quand même valable et très intéressant, c'est que il y a un nouvel Eldorado, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent bah génial, on va faire de la croissance verte, ça va être comme la croissance d'avant, mais simplement avec des énergies renouvelables, des voitures électriques, et en gros on va pouvoir continuer comme avant, mais simplement en verdissant un peu tout ça. Donc ça c'est évidemment une catastrophe, et ça nous montre que toute cette sémantique qui a été créée pour dire les énergies propres, les voitures propres, c'est extrêmement mensonger. Il n'y a pas de voiture propre, il n'y a pas d'énergie propre. Pour faire des énergies renouvelables, on a un impact sur les écosystèmes. Il faut aller chercher des métaux rares dans des mines. Il faut du béton, couler du béton pour faire des socles d'éoliennes. Il faut des aimants. Tout ça a un impact.
Il ne faut pas hésiter à le reconnaître, justement.
Exactement. Et la question qu'on a besoin de se poser, c'est quel est l'impact qui est soutenable et quel est l'impact qu'on est d'accord pour avoir. Et ce qui est un peu la conclusion du film, et là pour que je partage totalement, c'est que la première des solutions, c'est de diminuer considérablement notre consommation d'énergie. Dans Demain, on expliquait que on pouvait certainement réduire de 50 à 60% la consommation d'énergie mondiale, sans pour autant basculer vivre dans une caverne avec des bougies. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gâchis d'énergie considérable. On donnait un exemple tout con, mais ces écrans vidéo qu'il y a dans le métro pour passer des pubs, finalement, ils consomment autant que deux familles pendant toute une année pour tous leurs usages électriques. Donc c'est totalement, c'est de la gabegie, c'est inutile. Donc c'est d'abord à cet endroit-là qu'il faut se concentrer.
Jean-Marc Barre, une réaction peut-être à l'article de Perrine Moutarde et à cette question justement des énergies renouvelables ?
Cyril est très éloquent dessus et je ne sais pas comment ajouter à ça. Ouais, non. S'il y a une mobilisation comme c'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment inspirer ça pour essayer de faire justement ces changements que Cyril y parlait?
Oui, je me tourne vers Perrine Moutarde, sauf si vous voulez rajouter peut-être quelque chose, vous me dites.
Non, merci.
Merci à vous et je rappelle pour nos auditeurs que votre article est à lire sur lemonde.fr et sur le site de notre émission et on suivra bien évidemment vos prochaines réalisations pour les pages Planète du Monde. Jean-Marc Barre, oui, c'est les dernières analyses aussi, estimations des scientifiques et des climatologues français sont édifiantes, hein, un vrai film catastrophe. On en parlait aussi tout à l'heure avec Cyril Dion, mais il y a quand même ce constat, hein, qui fait que notre cerveau ne réagit pas aux chiffres, mais a besoin d'images quand même pour pouvoir réagir. Alors ces images, elles passent par les films, par le cinéma. On n'a pas cité depuis le début de l'émission des films un peu emblématiques. Alors beaucoup de documentaires, il faut le reconnaître, hein. On pense à Jacques Perrin, par exemple, qui a produit Océan, Le Peuple Immigrateur, Saison, Les Nourrizani aussi avec Microcosmos, un des premiers films qui a remporté un succès auprès du public et sur ces écosystèmes vraiment minuscules. Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, La Glace et le Ciel, aux États-Unis, Al Gore, Une Vérité qui Dérange. On peut aussi citer le film de Leonardo DiCaprio, hein, Avant le Déluge, etc. etc. Notre cerveau, Jean-Marc Barre, a besoin d'images.
C'est-à-dire qu'on a commencé à aller à l'église et mettre nos émotions sur les belles tableaux qui étaient. Ensuite est venue la télévision, les films et la télévision et nos rêves et nos récits. Ici aux États-Unis, on nous a indoctrinés, hein, toutes les films de guerre. Ça nous a appris à comment être des humains dans le 20e siècle. Et là, par exemple, depuis 20-30 ans, j'essaie de me déprogrammer de ça.
Et comment vous faites alors ? Comment vous faites ?
C'est-à-dire que je ne regarde pas la télé. J'essaie de regarder des films qui m'inspirent et qui vaut la peine d'être assis et de connecter avec ce que je vois. Comment faire ? C'est-à-dire que j'essaie de trouver la vérité. Par exemple, Extinction Rebellion veut qu'il y ait un débat honnête sur la nature, qu'on n'a pas vraiment, qu'on est en train d'aborder maintenant. Les images, je pense, doivent être dramatiques. Et comment trouver cette drame à travers le récit et les récits dont Cyril parlait, à retrouver notre humanité, à retrouver des valeurs qui vont dans l'autre sens que le profit, les valeurs de la vie.
Cyril Dion, une réaction ?
En fait, on a déjà quelques exemples qui sont très intéressants sur la façon dont, par rapport à ce que disait Jean-Marc, les images peuvent ou nous endoctriner ou nous inspirer. On a vu, suite à l'élection d'Obama, qui avait quand même été un peu surprise aux États-Unis, que une série, qui est sans doute la série qui a été le plus grand succès de l'époque moderne des séries, qui était 24 heures chrono, là, avec Kiefer Sutherland, avait d'une certaine manière préparé une partie des Américains à la possibilité d'avoir un président noir, parce que pendant plusieurs saisons, le président était noir. Il était même plutôt chouette, c'était un très bon président, plein de belles valeurs. Et d'une certaine manière, il y a une espèce d'accoutumance qui s'était faite. C'est-à-dire comme chaque semaine on regardait l'épisode et le président était noir, pourquoi pas avoir un président noir. De la même façon, on voit que en ce moment la place des femmes a énormément évolué. Elle a encore besoin de beaucoup évoluer, mais dans le cinéma, que maintenant ce sont beaucoup des héroïnes. Regardez les derniers Star Wars, c'est une héroïne et c'est plus seulement un héros, parce que notre conception et l'histoire qu'on se raconte par rapport au fait justement de pouvoir sauver le monde, être héroïque, être fort, bah c'est plus simplement les hommes, ça peut être les femmes aussi. Donc construisons des histoires qui font appel à tout ça. Si on a envie justement de montrer que on pourrait vivre différemment, plus simplement, qu'on pourrait avoir une relation à la nature à la fois plus spirituelle et plus honnête, en essayant de comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, et ben voilà, alimentons notre conscience collective avec toutes ces histoires-là, que ce soit sous forme d'images ou sous forme de textes ou sous forme de réalisation, parce que les récits c'est pas simplement les œuvres d'art. Quelqu'un qui un chef d'entreprise qui se met à faire complètement autrement son métier, un agriculteur comme Charles et Perrine Hervé Gruyer qu'on a été filmé au Bec et Loin, qui invente une toute autre façon de faire pousser des légumes, bah, c'est une histoire. Et d'ailleurs c'est une histoire qui est très inspirante. Après-demain, on a vu des milliers de personnes qui ont commencé à aller prendre des cours de permaculture, qui voulaient aller s'installer pour faire des micro-fermes, etc. C'est bien parce que c'est une histoire qui les a touchés et qui se sont identifiés à ces personnages.
Des histoires qui mêlent écologie et sociale aussi. Hein. C'est comme ça qu'on peut construire un avenir collectif.
Oui, bah après, enfin, c'est toujours le. Je crois que c'est Proust qui disait que une œuvre d'art avec un message, c'était comme un tableau sur lequel on aurait laissé le prix, enfin que il faut pas non plus chercher à tout prix à faire des romans à thème ou des films à thème, parce que c'est en général des films assez ratés. Simplement, il faut laisser nos imaginaires parcourir autre chose. Une œuvre d'art, en général, quand elle est réussie et qu'elle a justement une capacité, une charge émotionnelle et artistique capable de toucher plein de gens, c'est qu'elle échappe aussi un peu à ses créateurs. C'est Bob Dylan qui disait, quand dans le documentaire que Scorsese avait fait sur lui, qui disait « Je ne sais pas qui a écrit ces chansons », quand on lui parlait des protestations qu'il avait fait en lui disant « Est-ce que vous étiez l'idole d'une génération ? Est-ce que finalement vous voulez passer un message ?» Il disait « Non, enfin je ne sais pas. » En fait, il a été traversé par tout ça. Donc d'une certaine manière, c'est important qu'on se laisse traverser par l'époque. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important que les créateurs s'immergent dans des réalités différentes. Aller passer beaucoup de temps dans la nature, par exemple, c'est susceptible de nous inspirer d'autres choses que passer notre temps devant des écrans. Moi, quand je vois aujourd'hui la bataille que je livre avec mes enfants qui sont adolescents, qui sont tout le temps sur leur téléphone, sur les tablettes ou les trucs et les machins, je me dis qu'est-ce qui peut ressortir de ça comme créativité, comme idée nouvelle.
Vous rêvez de tablettes éco-responsables et durables, c'est ça?
Non, je rêve surtout qu'ils posent la tablette et qu'ils viennent avec moi dans la forêt.
Jean-Marc Barre.
Oui, non, je me dis aussi que le forum est un peu brouillé aujourd'hui dans nos salles et que l'Internet offre aussi une possibilité d'une communication, d'une solidarité planétaire, et qu'il y a peut-être une idée là aussi.
Ça pose la question des séries aussi, de ce que les jeunes regardent plus facilement avec ou leur téléphone, les tablettes ou autres, Cyril Dion. Vous en préparez une d'ailleurs, une série fiction, si je ne m'abuse.
Oui, on est en train d'écrire une série qui raconte une révolution en Europe et qui va être une série de fiction, effectivement. Bah oui, enfin, je suis d'accord avec Jean-Marc, hein, c'est-à-dire que évidemment qu'Internet nous permet aussi des choses exceptionnelles. Là, d'une certaine manière, dans la situation dans laquelle on est avec le coronavirus, le fait qu'on ait accès à cette information de façon quasi immédiate, qu'on ait la capacité d'échanger entre nous, mais que les chercheurs puissent aussi échanger entre eux d'un pays à l'autre, ça nous permet de faire face à la situation de façon très différente. Je suis en train de relire La Peste de Camus, et puis je lisais aussi des textes d'anthropologues sur les épidémies précédentes. Enfin, la façon dont on réagit là est extraordinaire par rapport à ce qui a pu avoir lieu dans le passé, où on comprenait pas ce qui se passait, où on était incapable de s'échanger les informations. Donc tout ça est très important. Après, c'est aussi très important qu'on soit capable de débrancher des écrans et qu'on n'aille pas vers une humanité, une espèce de transhumanisme où on a une machine greffée au cerveau, quoi.
Alors, dans les trois dernières minutes qu'il nous reste, peut-être une question quand même. Est-ce que vous avez le sentiment, Cyril Dion, que le secteur du cinéma commence à se préoccuper aussi de son propre impact environnemental ? Le coût énergétique des tournages, par exemple, voilà.
Je sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc, mais moi, c'est très timide pour l'instant.
C'est très timide, Jean-Marc Barre, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il en est?
Non, moi, je parle pour la France, c'est-à-dire que on n'est plus en train d'aller vers la mur, on est dans le mur. Et donc, comment produire pour le futur si le cinéma ne va pas pouvoir accueillir les gens? Le dilemme Netflix, Amazon, en ce moment c'est très très difficile de produire et même de penser à des sujets comme ça. On est dans un mode vraiment survie. Je ne sais pas si Cyril est d'accord, mais c'est ce que je témoigne moi.
Cyril Dion ?
Si, c'est en gros on est en train d'aller vers une espèce d'oligopole, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des très gros acteurs qui arrivent et qui ont tendance à concentrer tout le pouvoir, toute la richesse, tous les moyens de diffusion. Et c'est hyper difficile en ce moment pour les producteurs indépendants, les distributeurs indépendants qui souffrent énormément. La crise du coronavirus a encore aggravé ce déséquilibre parce que les plateformes en sortent très renforcées, alors que les salles de cinéma et les distributeurs ont beaucoup souffert. Donc là aussi, je pense qu'il y a quelque chose à organiser, il y a des forces entre guillemets à construire pour que on ait les moyens financiers et la capacité de produire des œuvres qui sortent des standards de l'industrie la plus commerciale.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Jean-Marc Barre, allez, 30 secondes, 40 pour juste nous faire partager votre prochain film. Vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Alors, tout ce que j'allais faire ne se fait pas en ce moment. j'ai une série qui va sortir, que j'ai tournée en Angleterre, qui sera sûrement sur Canal. Nous prévoyons de tourner deux films avec Pascal Arnaud l'année prochaine. Très indépendant, comme dans notre tradition. Et voilà.
Eh bien, merci à tous les deux. Et on peut peut-être finir sur cette phrase empruntée à Hubert Reeves. Je crois qu'on la trouve dans votre livre, Cyril Dion. Il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, mais juste déterminé. C'est un petit peu ce qui vous rassemble, et l'un et l'autre, on peut dire. Merci à tous les deux, Jean-Marc Barre. Merci, Cyril Dion. Merci, petit manuel de résistance contemporaine. C'est votre livre, Cyril Dion, paru chez Actes Sud. Et puis, je rappelle pour les auditeurs que le dernier numéro de la revue papier s'intéresse à l'avenir, celui du cinéma français et celui de la santé de nos terres. Il est à découvrir en kiosque. Et comme toujours, bien sûr, les informations, les compléments sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Réécoute, téléchargement. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur notre page Facebook. Dimanche prochain, nous nous intéresserons au choix d'une relance économique en respect de l'environnement. Bonne fin de journée à tous.